de dribble qui ont abouti au deuxième but contre cette même sélection anglaise. C'est un peu le pied de nez à la guerre des Malouines. C'est aussi beaucoup d'excès dans la vie. C'est quelqu'un qui a croqué la vie à plein dents, qui s'est perdu dans les méandres de la vie et qui nous quitte à l'âge de 60 ans. C'est une triste nouvelle pour l'Argentine. C'est une triste nouvelle pour le monde du football. Et c'est une triste nouvelle pour tous ceux qui ont eu le privilège de le voir, de l'admirer, de l'apprécier. J'ai eu personnellement l'occasion de le faire à deux reprises, en 2015 et 2016. Et c'est évidemment aujourd'hui beaucoup de tristesse pour le monde du football et pour tous les enfants, tous les adolescents qui ont eu la vocation d'être footballeurs, d'être journalistes sportifs grâce à Maradona.
Oui, et vous, Martin Camus, vous avez commenté plusieurs matchs de Coupe du Monde pour une audience africaine. Que vous inspire Diego Maradona?
Bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'honneur de commenter un match joué par Diego Maradona, mais j'ai eu surtout le bonheur de commenter les matchs d'Argentine pendant qu'il était entraîneur. Et ce n'est pas ça qui m'a marqué, parce qu'en réalité, Diego Maradona entraîneur, pour moi, c'était anecdotique. Mais maintenant, quand on parle de Diego Maradona, j'ai eu la chance de lire son livre qu'il a écrit, son histoire, c'est une histoire passionnante, qui gagne la Coupe du Monde en 86 avec l'Argentine, alors que dans son histoire, en Argentine, ils sont bons cartés. Il arrive à parler des difficultés, les incroyables. Et moi, ce qui me plaît dans Maradona, ce sont ses propres ambitions. C'est le soutien de ce football qui avait le coup pour dire ce qu'il pensait réellement de la gestion et de façon de dire. Personne n'a cru à Maradona pour moi, je le dis. Mais après, avec les standards de la FIFA et autres standards de football, on a compris que Maradona avait une autre chose. Il a bien expliqué à tout le monde qu'il y avait quelque chose qui était mis en place, qu'on pouvait changer. Et il pense que les gens ont fait en fait que les gens étaient prouvés. C'est tout ça.
Pour en venir au sujet de la discussion de ce Washington Forum, la suspension d'Ahmad Ahmad par la FIFA. Amine, on savait que la commission d'éthique de la FIFA était en train d'enquêter sur la gestion d'Ahmad au niveau de la CAF. Pourquoi cette suspension a semblé surprendre beaucoup de personnes?
Il y a beaucoup d'interrogations qu'il va falloir quand même se poser. Il y a des raisons objectives. Il y a bien évidemment toutes les preuves qui ont été peut-être rassemblées par les enquêteurs de la FIFA. Et puis il y a d'autres raisons un peu plus subjectives parce qu'il y avait peut-être un duel frontal entre Gianni Infantino, le patron du football mondial, qui a une vision peut-être différente de celle du comité exécutif de la CAF et de son président sortant, Ahmed Ahmed.
Et vous, Martin, comment interprétez-vous cette suspension d'Ahmad qui a d'ailleurs fait appel de cette décision?
Moi, j'estime d'abord que ce soit la procédure d'arrivée d'Ahmad à la fin ou son départ, il y a un problème avec la décision de la FIFA. C'est-à-dire que c'était tellement difficile que la FIFA s'était impliquée avec l'article que c'est aussi un problème. On va clairement la FIFA s'est compliqué pour que Ahmad part. C'est-à-dire que si on est dans une situation difficile et que la FIFA veut contrôler les confédérations et contrôle. Et puis, de façon nationale, on a choisi. Et ce n'était vraiment pas exclu parce que Ahmad est interpellé en France. Il y a un communiqué de la FIFA qui pose quand même interrogation. Il y a un problème de confédération interpellée. Ce que le communiqué de la FIFA dit, c'est que la FIFA a pris la résolution de nettoyer le football, de se retirer dans les histoires. En réalité, à des moments, la FIFA dit que l'indique que M. Ahmad est coupable ou alors que c'est coupable. C'était inélégant. Le football, jusque-là, même des convenances qui commencent à être obligées. Il y a même l'arrivée de M. Mach et après il faut son temps. De toute façon, papa est venu. Lorsqu'il est venu, c'est qu'on a fait mon appel pour essayer de contrôler un peu, même si la carte ne voulait pas l'accepter. C'est clair que la carte a un pied de derrière. au sein de la sorte. Et le bon, il a pris la sentence, ou alors la disposition de travail, est une décision qui tue un peu, inspire le manque de respect utile. Donc, des choses qu'on voudrait demander, il faudrait peut-être pas
voter. Et vous, Yacouba, en fait, comme l'ont dit Amine et Martin, la FIFA confirme ainsi son emprise hein, sur la gestion du football africain, avec d'abord l'envoi de Fatma Samoura pour 6 mois à la CAF, et maintenant cette sanction. Comment le monde du football interprète tout cela?
Écoutez, c'est deux choses. Hein. Les pères de Kouchi à Ahmad, on va se rappeler que cela date déjà un depuis l'ère Amr Fani, l'ancien secrétaire général de la CAF, en février dernier, qui avait dit avoir transmis hein, pas mal de documents à la justice française et à la FIFA également, des faits accablants à Ahmad, des faits de corruption notamment. On se rappelle de cette rupture de contrat unilatéral avec Puma, avec une plus-value de plus de 700 000 euros pour être perçu à Ahmad à travers des sociétés ou encore des sociétés d'amis, lorsqu'il a re-signé, bien sûr, avec un Vatican Lorsky. Ce sont des faits qui sont là, ce sont des documents qui ont été transférés à la commission d'éthique hein, de la FIFA, et donc sur ce plan, c'est difficile de déblaner Ahmad. Le volet politique, lorsqu'Ahmad et Amine parlent notamment, bien sûr, des visions différentes entre la CAF et la FIFA, c'est tout à fait juste. La FIFA a voulu, par exemple, faire passer une Coupe d'Afrique des Nations à 4 ans, et donc ça 4 ans, ce n'est pas passé du côté de la CAF, c'est une différence de vision. La FIFA a voulu bien sûr que le mandat de Fatma Samoura en tant que délégué général pour l'Afrique soit renouvelé à son expiration en début février 2020. Ça n'a pas été le cas, et donc du coup, il y a quand même des points qui opposent ces deux dirigeants du football. On le sait, Ahmad a été venu faire ça qui grâce bien sûr à...
Oui, Martin, vous vouliez réagir à ça?
Oui, mais Yacouba, moi je comprends que ce sont des faits, mais chacun peut donner une orientation qu'il peut faire. Moi je ne dis pas que M. Ahmad n'a pas fait, qu'il n'est pas en information, qu'il n'est pas une voie que ça lui repose. Le problème c'est l'opportunité de l'utilisation de cette faits. Moi je veux rappeler une chose. On parle de l'attribution de tout le monde, je crois 2026, le Maroc est candidat, la FIFA ouvertement soutient le Canada et les États-Unis. Ahmad se met à faire de la FIFA et mobilise.
Justement, Amine.
Et soutenir la candidature du Maroc. Et donc, c'est évident, même s'il y a des faits, que quand même, c'est peut-être le côté de l'appropriation qui contrôle de la CAF qui constitue un problème à M. Infanti. Que les faits qui sont reprochés par tout le monde ne vivent que de ce genre de faits. Et on a l'impression depuis quelque temps que ces faits sont utilisés juste comme une épée au-dessus de la tête des présidents de confédération. Il faut agir parce qu'on veut détailler une garantie.
Intéressant tout ça. Alors, Amine, justement, la FIFA, est-ce qu'elle a trop de pouvoir sur les confédérations et comment on peut le jeu d'alliance pour influer sur l'élection du président de la CAF l'année prochaine chez vous au Maroc?
On va juste rappeler deux choses qui sont importantes. La FIFA a pris le pouvoir à la CAF en juin 2019 au moment de la nomination de Fatma Samoura. Il y avait deux versions des faits. Il y avait la version du président Ahmed Ahmed qui avait dit que la CAF recourait à l'expertise de la FIFA pour pouvoir éponger le passif de 30 années de dictature entre guillemets de ses prédécesseurs. Et il y avait aussi la vision de ceux qui s'offusquaient, qui parlaient de néocolonialisme de la FIFA. Il faut juste rappeler le background de l'actuel patron du football mondial. Il vient du monde des affaires. Il a été, je dirais, un des rares rescapés des enquêtes qui ont été faites en 2015, qui ont abouti à la chute de l'ex-président de la FIFA, cette affaire, de Michel Platini et de beaucoup de dirigeants de la CONCACAF, du comité exécutif de la FIFA. Est-ce que Gianni Infantino a cherché la protection de puissants protecteurs, de puissantes nations? C'est peut-être le cas. Est-ce que les relances de l'organisation de l'attribution au Qatar en 2022 ont fait qu'il ait cherché à protéger l'institution de cette façon-là? Aujourd'hui, il s'est attaqué directement au président de la CAF via une enquête. Il y a certainement des éléments objectifs. On parle de l'affaire Tactical Steel et de ce contrat plutôt opaque qui aurait bénéficié à Ahmed et à ses proches. Ce que j'aurais souhaité, c'est que la FIFA où la commission d'éthique de la FIFA puisse émettre des recommandations et que la décision de sanctionner ou pas Ahmed Ahmed soit remise dans le concert africain, c'est-à-dire que les 54 fédérations puissent se réunir en assemblée générale extraordinaire, qu'elles aient tous les éléments du dossier à charge et qu'elles puissent voter librement. Or, la remarque est la suivante. Ahmed Ahmed a été sanctionné, puni, et d'ailleurs dans son l'appel qui vient de formuler, il avait demandé à avoir des témoins à comparaître devant cette juridiction. Ce droit lui a été totalement interdit.
D'accord. Yacouba, on n'a pas beaucoup de temps avant d'aller à la pause. Un mot sur justement ces candidatures.
La candidature, par exemple, du Sud-Africain Motsepe Patrice, le milliardaire qui est soutenu ouvertement par la FIFA, mais qui ne bénéficie pas, on dirait, la majorité du comité exécutif de la CAF. Le problème avec le bloc francophone, il faut le reconnaître, c'est que déjà on part divisé. Si on a une candidature d'un Mauritanien, on a une autre candidature d'un Ivoirien et une autre encore d'un Sénégalais, si les voix francophones doivent se partager entre ces trois candidatures, là, face au bloc anglophone qui est plutôt uni, ça sera très difficile pour la partie anglophone et francophone, je dirais, de passer. Juste une petite précision sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, le problème, c'est que Ahmad, jusque-là, ne conteste pas la véracité des faits qui lui sont reprochés. Quand j'ai lu, bien sûr, son réquisitoire, lorsqu'il interjette appel auprès du tribunal arbitral du sport, il parle de la procédure. Mais est-ce qu'il y a eu des faits ou pas des faits de corruption? Il aurait tout simplement tendu le fouet à la
corruption. On va en tout cas suivre ce qui va se passer avec la procédure d'appel. Nous avons quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a par exemple Lambert Chile Mouyemba qui est à Mbujimaï en République démocratique du Congo. Il écrit c'est vraiment caricatural que la corruption ait élu domicile au sommet du football africain alors que nous voulons plus de réformes et d'améliorations afin d'avoir aussi un football de haut niveau. Ce genre de choses fait reculer tous les acteurs, tous les secteurs de la vie et encore plus le football. Et puis l'Asgasek à Dakar au Sénégal nous dit que la FIFA est un conglomérat d'intérêts. L'argent y coule à flot. La FIFA gagne beaucoup d'argent. Elle est très près de ses sous. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. La suspension cette semaine d'Ahmed Ahmed par la FIFA, lui faisant perdre son poste de président de la CAF, a suscité beaucoup de réactions sur le continent. C'est le cas d'ailleurs à Dakar, où Alison Lekoto Fernandez a tendu son micro à des fans du football.
Cette instance doit être une instance exemplaire. Il a été là pendant 30 ans et Ahmed était l'espoir. Nous avions eu beaucoup d'espoir que cette institution allait changer, qu'il y aurait un développement du sport africain et tout. Mais malheureusement, les institutions, voilà, les hommes vont changer. Ce sera toujours la répétition, la corruption, des problèmes de violation de loi, des pots de vin et tout. C'est ce qui est malheureux pour le sport africain en général.
Je n'ai jamais pensé que ça pourrait arriver à Ahmad, parce que j'avais un pressentiment, un bon pressentiment par rapport à sa personne. Mais bon, comme actuellement, il y a beaucoup de soucis par rapport à la gestion de la CAF et peut-être la FIFA a ses raisons que nous on ignore.
Actuellement, nous savons qu'en Afrique, nous avons beaucoup de magouilles. Donc, nous n'avons pas le fond sur vraiment cette décision. Donc, le mieux serait d'abord d'attendre sa version, d'avoir le fond sur cette décision. Mais par contre, depuis sa gestion, la population africaine de football, elle n'a pas été mauvaise. Il y a aussi eu des scandales, mais mieux laisser le tribunal d'état du sport gérer et on verra à ce déclin s'est passé. Mais sinon, pour moi, dans l'ensemble, ça s'est pas mal passé avec les gestions des cannes, même s'il y a toujours des malices, quoi.
Le football africain a besoin un peu d'innovation. Et en tout cas, de nouveaux gestes neuf et de nouvelles générations qui, en tout cas, veulent en tout cas mener le foot à un monde meilleur, là où les jeunes pourront s'épanouir et trouver en tout cas un environnement sportif vraiment adéquat à notre système.
Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Douala, Martin Kamumiem, commentateur sportif et directeur général de Radio Sport Info, RSI. À Amine Birouk, journaliste sportif et consultant, également correspondant de VOA Afrique à Casablanca. Et ici à Washington, mon collègue Yacouba Ouedraogo. Alors Martin, on parle beaucoup de réforme de la CAF pour la rendre plus efficace, plus transparente. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique?
Les réformes sont de deux ordres. Il y a la réforme sportive qui ont des répercussions économiques et des réformes purement politiques. Et souvenez-vous que lorsque M. Sienfantino prend la parole pour, de façon inélégante, sans même quelque chose, c'est-à-dire qu'une solution qui pourra prendre avec son ministre de la CAF, et qui pense que la CAF va se faire de 4 ans, en démontrant que économiquement, ça peut faire quelque chose. C'est qu'on est répondu que cette famille de l'État, il vient du monde des affaires qui peut le football en faire l'affaire. Or, la CAF, et vous connaissez le contexte africain, on voit le football en termes de populaire, d'accord. Ce sont des politiques ou des pouvoirs politiques qui prennent l'organisation de la CAF, ce ne sont pas des fédérations. Et tant que la CAF ne peut pas se libérer des politiques en Afrique pour organiser la compétition, il n'est même pas possible que l'idée de Jan et Jacques Infantino puisse prospérer. Tout le monde parle de la CAF, mais personne ne se rappelle que la CAF est lancée, elle est soutenue par des politiques, c'est-à-dire en 57, lorsqu'elle comprend, et il y a les propres roumains, les chefs peut organiser la CAN. C'est une politique, c'est-à-dire que c'est la CAN ne peut pas se prendre de charge.
Oui, Amine, on peut dire que la CAF n'est pas la seule instance touchée par des scandales financiers. Hein. Il y a aussi des disciplines autres que le football. Comment voyez-vous cette réforme de la CAF pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle inspire plus de confiance?
Tout d'abord, j'ai toujours estimé que la présidence d'Ahmed serait une présidence de transition. C'est-à-dire qu'il assurerait une transition entre une CAF ancien régime, opaque, paternaliste, avec un président immuable pendant 30 ans, et puis une CAF qui serait beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, qui poserait son temps. Or, avec Ahmed, on a eu une gestion réactive et non pas proactive. C'est-à-dire que ce sont souvent des décisions à fleur de peau, souvent sur la base d'éléments où on réagit de manière sensible et non pas de manière structurelle en profondeur. J'ai souvent eu l'impression que c'était une gestion à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, on a besoin d'une gestion plus rationnelle, de finances saines et surtout d'un profil de dirigeant managérial.
Quand vous parlez de la gestion précédente, on a vu quand même qu'Ayatou, quelle que soit la polémique qui entourait, au moins il avait réussi quand même à rester pendant des décennies où en tout cas on n'avait pas cette impression d'emprise.
Une emprise à tel point que lorsque Jacques Hanouma a voulu se présenter contre lui en 2013, il a modifié les textes pour l'empêcher de se présenter. Donc on n'était pas dans une véritable démocratie. Aujourd'hui, l'avantage de ces candidatures multiples, c'est de pouvoir ouvrir le débat et de donner une vision, une visibilité à la jeunesse africaine et au football africain. Moi, je souhaiterais une CAF, je dirais, qui épouse son temps. Aujourd'hui, s'il y a un modèle qui marche, c'est celui de certaines confédérations comme l'UEFA. On ne veut pas arriver à la Ligue européenne fermée, donc elle défend les petites fédérations, elle ouvre la voie pour permettre de niveler les différentes sélections nationales, et c'est peut-être la solution.
Martin voulait réagir au propos de Amine.
Je voudrais quand même remarquer que Bon, j'ai écouté Amine tout à l'heure parler du règne de Ayatou. On peut dire ce qu'on veut, mais Ayatou arrive quand même à un moment où Tessema venait de partir, où il avait amorcé un certain nombre de choses. Parmi ces choses, il y a la représentativité du continent africain dans les compétitions et même dans les instances. Tessema avait amorcé, mais Ayatou a réussi ça. Après, on peut dire qu'il a fait peut-être pas ou deux mandats de trop, mais en même temps, le football africain a besoin de plus de stabilité, peut-être pas d'autant de longévité, mais a besoin de plus de stabilité et de diplomatie. En même temps, pour pouvoir évoluer, je crois que c'est ce que M. Ayatou a fait. Par contre, ce que M. Ahmad est arrivé à faire, je trouve que même s'il partait aujourd'hui, le forum qu'il organise au Maroc pour pouvoir réfléchir sur le football, pour moi, était un forum de folklore, mais en même temps, les décisions, parce que la plupart des décisions qui ont été prises dans ce forum n'ont pas prospéré, la CAN en juin, ainsi de suite.
Alors, Amine, dans tout ça, est-ce qu'il n'est pas vraiment temps de penser au bénévolat dans ces fonctions électives et on peut les rendre moins lucratives?
Le bénévolat devrait exister. La CAF est une association sportive. Normalement, on ne devrait pas avoir autant d'argent autour d'elle. Mais vous aurez remarqué que parmi les griefs retenus par Ahmed Ahmed, c'est tout l'argent de poche qu'il aurait demandé pendant sa présence pour le Mondial russe et certaines se trouver dans trois lieux au même moment, c'est-à-dire à Madagascar, en Égypte et en Russie. Donc il y a des choses qui lui sont reprochées. Je voudrais quand même rappeler une chose. Il faudrait peut-être, dans les textes de la CAF, limiter les mandats à deux au maximum. C'est-à-dire, comme cela se fait aux États-Unis au niveau de la présidence, au niveau de certaines confédérations sportives ailleurs, et puis faire en sorte qu'il y ait un code éthique qui soit respecté par tous aujourd'hui. La FIFA a quand même créé sa propre commission d'éthique après les scandales de 2015. Et même le président de la FIFA, il trouve le coup d'une enquête de la part de la justice suisse.
Ouais, Yacouba, votre réaction sur l'argent dans le football. On a un des téléspectateurs de Dakar, je crois, qui parlait de tout cet argent qui circule dans le football. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser plus aux footballeurs et moins aux bureaucrates?
Le monde du football, c'est de l'argent. Les footballeurs ont leur contrat, ils ont leur salaire avec leur club. C'est bien de la gestion même administrative, les instances dirigeantes du football et de l'argent. De ce qu'on fait, bien sûr, de l'argent. Je pense que particulièrement pour ce qui est de la CAF, c'est à l'institution de mettre des garde-fous pour que ça ne soit pas facile pour un président d'institution comme la CAF de signer par exemple un contrat avec un équipementier ou encore un sponsor sans qu'on ne puisse s'assurer qu'il n'y a pas des fuites qui reviennent dans les poches des dirigeants en question. L'argent a toujours existé dans le football, ce n'est pas l'argent le problème, je pense que c'est le problème même de la probité des personnes qui dirigent ces instances du football-là.
Amine, disons, cette réforme dont on parle au niveau de l'instance continentale, elle devrait peut-être aussi toucher les fédérations nationales. Là aussi, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques.
Oui, alors vous disiez que ça devrait toucher les fédérations nationales. Moi, je poserai des questions concernant le comité exécutif de la CAF. Comment un des soutiens du candidat sud-africain, M. Phoenix, ex-premier vice-président, il est sous le coup d'une poursuite judiciaire dans son pays. Le premier vice-président de la CAF est également sous le coup d'une enquête de la FIFA. Le président de la fédération égyptienne, Hani Abouleida, est également dans le collimateur de la justice. Donc d'une façon ou d'une autre, il faudrait peut-être penser à une commission éthique et probité qui filtrerait ses candidatures, qui verrait leur CV, qui ferait une présélection en fonction de leurs antécédents avant de pouvoir donner le pouvoir à ces gens-là de gouverner le football dans leur pays et aussi dans notre continent.
Alors, on va terminer avec vous, Martin. Amine parlait tout à l'heure, en parlant des réformes, par exemple de la limitation des mandats au niveau de la présidence de la CAF. C'est une idée que vous soutenez?
Moi, je suis toujours contre la limitation des mandats de toute façon, parce que j'estime que lorsqu'on a des capacités pour pouvoir faire quelque chose, il revient au département de prendre la responsabilité. C'est trop facile de passer le temps à les mandats parce qu'il ne faut pas comprendre le tout. Mais que font des associations sportives intimes?
En tout cas, voilà, merci. Je promets que Washington Forum reviendra sur ce sujet certainement d'ici quelques semaines ou quelques mois. Nous suivons. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie également toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.